7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, le modèle suédois face à son immigration. C'est un pays de plus de 9 millions d'habitants, 9 700 000 habitants, qui se distingue en Europe comme étant le pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile proportionnellement à sa population. Pour l'année 2015, le nombre de demandeurs d'asile pourrait atteindre 105 000 personnes, selon l'Agence nationale des migrations en Suède. En 2014, le pays a connu une augmentation de près de 80% du nombre de demandeurs d'asile par rapport à l'année précédente. Alors au-delà des demandeurs d'asile, quelle est la politique d'accueil des immigrés économiques? Pour quelle intégration? Avec quelles limites? Nous sommes dans un pays, la Suède, où 16% de la population est née à l'étranger. Nous allons en discuter avec notre invité, sociologue spécialiste de la Suède, Wojtek Walinowski. Bonjour.
Kalinowski,
pardon.
Bonjour.
Vous êtes le co-directeur, Wojtek Kalinowski, de l'Institut Veblen pour les réformes économiques. C'est un cercle de réflexion qui est basé à Paris. Vous êtes d'ailleurs vous-même issu de l'immigration, polonais, immigré, émigré vers la Suède. Vous avez grandi en Suède.
J'ai grandi en Suède, oui, c'est correct.
Et vous êtes toujours citoyen suédois, d'ailleurs.
Voilà.
De l'Union Européenne et français. Tout de suite, reportage en Suède. Première destination d'asile des réfugiés syriens en Europe. Sur les 3 millions à avoir fui la guerre, ils sont près de 30 000 à s'être installés en Suède. Seul pays au monde d'ailleurs à accorder un permis de résidence à vie à tous les Syriens qui demandent l'asile. C'est le cas de Mahmoud, 28 ans, qui vit à Stockholm maintenant depuis un an. Il a raconté son histoire au micro d'Alice Milo et de Sébastien Orion.
J'ai pris un avion pour quitter la Syrie et aller en Turquie. Et quand je suis arrivé en Turquie, j'ai rejoint Izmir pour me rendre en Grèce. Le bateau était petit, en mauvais état, et il a coulé. On est resté dans l'eau pendant 10 heures, et l'eau était vraiment glacée. Les vagues étaient immenses. Le temps était vraiment mauvais, il pleuvait, il faisait froid. C'était vraiment un jour horrible. Après 10 heures passées dans l'eau, le bateau de la police grecque a fini par arriver pour nous sortir de l'eau. On était 25 sur le bateau. Mais je ne sais pas combien d'hommes ni de femmes se sont noyés. Parce que quand t'es dans l'eau, tu ne peux rien faire pour aider les autres. Tu ne fais que nager, nager et nager encore. Je suis resté 25 jours à Athènes. Et ensuite, j'ai pu prendre un avion pour la Suède. Je savais que la Suède était un pays tranquille, que les gens étaient gentils ici, que le gouvernement était bon. J'avais lu tout ça sur Internet. Je suis venu ici pour avoir une meilleure vie. Parce que si tu as besoin de quoi que ce soit ici, pour continuer tes études, pour aller à l'université, le gouvernement t'aide pour tout en fait. C'est pour ça que je suis venu en Suède. J'aime la Suède.
Je m'appelle Peter Bivelander, je suis chercheur sur l'immigration à l'université de Malmö. Depuis les années 70, les réfugiés et leurs familles ont commencé à arriver en Suède. Au départ, nous avons accueilli les Chiliens après le coup d'État de Pinochet, ensuite les Vietnamiens. Puis, 10 ans plus tard, dans les années 80, ça a été le tour des Iraniens et des Irakiens qui fuyaient la guerre. Ensuite, les Africains ont commencé à arriver, des Somaliens, des Éthiopiens, des Érythréens, des Ougandais, des Nigérians. Et ces dernières années, nous avons reçu beaucoup de Syriens à cause de la guerre. Environ 80% des demandeurs d'asile qui arrivent en Suède obtiennent le droit de rester. En comparaison, les autres pays européens sont très fermés. Dans ce sens, la Suède est vraiment différente du reste de l'Europe.
Pourquoi la Suède s'est érigée comme le pays d'accueil de ces immigrés et pourquoi elle accorde aussi facilement finalement le statut de réfugié contrairement à d'autres pays européens?
It's not Sweden that is particular or peculiar.
Ce n'est pas la Suède qui est particulièrement ouverte. Ce sont les autres pays européens qui ne le sont plus. Si vous regardez 20 ans en arrière, le Danemark, la Hollande, la France, l'Italie, le Royaume-Uni accueillaient encore leur part de réfugiés. Ils appliquaient les lois pour lesquelles ils avaient voté. Mais ces dernières années, les réglementations de ces pays sont devenues de plus en plus restrictives. Donc, ce n'est pas la Suède qui a changé. Ce sont les autres pays.
Si c'est une vue qui est positive parce qu'elle est humaniste ou parce qu'il y a un intérêt à ça?
Sweden, just like many other European countries, need immigrants to keep up with the demographic changes.
La Suède, comme la plupart des autres pays européens, a besoin des immigrés pour faire face au changement démographique. L'espérance de vie des Suédois s'est allongée, les jeunes étudient de plus en plus longtemps et il n'y a plus assez de personnes sur le marché du travail. Et nous vivons dans un système d'État-providence, donc nous avons besoin de gens pour travailler et alimenter ce système. Bien sûr, nous avons un taux de chômage qui est à peu près le même que les autres pays européens, mais nous avons aussi des secteurs d'activité où nous manquons de main-d'œuvre. Par exemple, nous manquons de docteurs, d'infirmières, d'informaticiens, d'ingénieurs. Nous avons fait un sondage la semaine dernière et je crois que 67% des Suédois interrogés se déclaraient pour l'immigration. C'est le taux le plus élevé que nous ayons eu.
Vous avez une politique d'immigration qui est forte. Vous donnez facilement le droit d'asile aux réfugiés. Mais vous ne vous contentez pas de donner le droit d'asile. Vous avez également une forte politique d'intégration. À travers quoi, en fait, elle se traduit?
It's very individual for everybody. We have no... People will put into classes according to the skills they have. So
c'est une intégration très individuelle. Les nouveaux arrivants sont envoyés dans des classes en fonction de leurs compétences pour apprendre à parler suédois. Généralement, 10-15 ans après, 60-70% d'entre eux ont trouvé du travail. C'est un chiffre plus élevé que dans les autres pays européens, mais ça prend du temps. Nous, on voit ça comme un investissement. C'est comme quand tu as des enfants. Tu ne sais jamais s'ils vont avoir un travail après leurs études. C'est la même chose avec les immigrés. Bien sûr, s'il y a un décalage entre les compétences dont nous avons besoin et ceux qui arrivent, nous devrons les former. C'est un investissement, et si on peut se le permettre financièrement, c'est facile. C'est facile quand on est riche.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Reportage signé Alice Milo en Suède. Nous retrouvons une deuxième partie de reportage après le flash en deuxième partie d'émission. Retour dans le studio avec vous, Wojtek Kalinowski. Vous êtes sociologue, co-directeur de l'Institut Veblen. Comment vous réagissez par rapport à ce qu'on vient d'entendre déjà?
La première réflexion, c'est que le chercheur qui est intervenu, il avait tout à fait raison que c'est la Suède n'a pas vraiment évolué. C'est les autres pays qui ont changé leur politique. Donc c'est à la fois les critères et l'application des critères quand on accorde un droit de séjour qui ont évolué sous pression des populismes un peu partout en Europe. Mmh. Là, c'est la Suède qui a résisté à cette tendance. Même si sous l'impulsion de la montée du populisme en Suède aussi, ça risque de poser de plus en plus de questions là-bas aussi. Donc ce reportage dit très bien deux choses. La première, c'est que cette politique d'accueil des immigrés a suivi les grands conflits mondiaux depuis les années 70. D'où les chiffres des Syriens sont évoqués aujourd'hui, mais dans les années 90 c'était les pays d'ex-Yougoslavie, avant c'était l'Irak et l'Iran.
Mais on a le sentiment là, quand on entend ça, que finalement la Suède accueille plutôt en priorité des demandeurs d'asile qui fuient les conflits, plus que les grandes vagues d'immigration économique qu'ont connues des pays comme l'Allemagne ou la France d'ailleurs.
C'est 30% de tous les immigrés, ce sont des demandeurs d'asile, ce qui est beaucoup comparé à d'autres pays. Et évidemment, même si le regroupement familial, ça c'est la catégorie principale aussi, mais c'est 35 ou 40%. Mais 30% des demandeurs d'asile, c'est vraiment beaucoup. Mais je voulais aussi ajouter que la dixième chose qui était dite dans ce reportage, c'est que la Suède mène une politique d'accueil qui est active et qui coûte de l'argent, l'argent investi par les contribuables suédois, et qui s'est avéré souvent très efficace. Alors, si vous permettez, puisque moi-même, je suis un immigré. J'étais un immigré.
Vous êtes né en Pologne.
Je suis né en Pologne. Ma famille s'est installée en Suède en 84.
Donc avant la chute du mur.
La chute du mur. Les Polonais, c'est un grand groupe en Suède également. Il y a eu plusieurs vagues. Mais mes parents, qui avaient 45 ans à peu près à l'époque, donc évidemment, ils parlaient pas le suédois. puisque c'est un petit pays. Donc ils ont eu le droit ils ont bénéficié de cette politique qui très concrètement s'est traduisée par une année entière consacrée à l'apprentissage du suédois, une année pendant laquelle ils étaient payés. Et payer assez décemment pour ils recevaient des allocations familiales mais
pour se consacrer vraiment à l'apprentissage du suédois sans être complètement obligé de travailler.
Sans être obligé de travailler. Ça veut dire c'était l'apprentissage à 100% pendant un an et une deuxième année d'adaptation au marché du travail suédois. Donc en gros ils ont eu presque 2 ans d'études préparatoires avant d'intégrer le marché du travail suédois et les résultats c'était qu'ils l'ont réussi.
Ils sont arrivés comme demandeurs d'asile.
Ah non, eux ils sont arrivés. Mon père oui, mais nous déjà en 81, nous on l'a rejoint 3 ans plus tard en tant que dans le cadre justement du regroupement familial. Deux grandes catégories
Aujourd'hui, les étrangers qui sont accueillis bénéficient également de cette générosité là, c'est-à-dire un an d'apprentissage de la langue avec une indemnité à ce point-là.
Ceux qui obtiennent un droit de séjour, oui. Les modalités peuvent changer, évoluer selon quelques circonstances, parce que c'est aussi une responsabilité de commune. Mais c'est globalement une politique très, qui investit dans la capacité des immigrés à s'intégrer. C'est aussi quelque part une reconnaissance d'un fait très simple, c'est que la Suède, c'est pas un pays, ça n'a jamais été un pays colonial. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des colonies comme dans le cas de la Grande-Bretagne ou la France, où les immigrés parlent souvent déjà la langue
mais tout de même,
pays
le pays, votre pays, la Suède, a tout de même profondément changé. 16% de la population née à l'étranger, 20% si on prend les habitants qui ont un parent né à l'étranger.
Oui, les deux parents. Oui, et c'était un changement très rapide.
En 75 ans, c'est ça?
En 30 ans, depuis les années 80, en gros, ça veut dire.
Mais 75 ans, c'était 1%, en tout cas, de la population née à l'étranger.
C'est rien du tout. Et donc, initialement, là, il faut se rappeler que la Suède, comme les autres pays nordiques, c'était quand même des pays très pauvres. Ça veut dire que c'était des pays d'émigration eux-mêmes. Un quart des Suédois sont partis aux États-Unis, au 19e siècle. Donc, ce n'est qu'à partir des années 40 que les flux s'inverse et l'immigration remplace l'immigration. D'abord une immigration de travail, mais ensuite à partir des années 70, comme on l'a dit, c'est de plus en plus les réfugiés politiques qui représentent une partie majeure jusqu'à aujourd'hui. Donc ces dernières années, le pays reçoit à peu près 100 000 immigrés par an.
Oui. Qui est énorme. On parle du modèle suédois aujourd'hui avec vous, Wojtek Kalinowski, vous êtes sociologue. Alors, bien sûr, vous pouvez nous appeler, nous poser des questions. Le modèle suédois de l'État-providence face à son immigration, on le sait aujourd'hui, l'Europe est sous pression par rapport à ses flux migratoires. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. The best I can, I will tell them to the children, if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Some die young. Some die young. But you better. So many things I need to say to you. s'appelle Laleh, c'est une Iranienne qui vit en Suède, Som Dayang, chez 7 milliards de voisins. Nous parlons du modèle suédois face à son immigration avec vous, Voide Kalinowski, vous êtes sociologue. Alors déjà, que signifie le modèle suédois, le modèle d'État-providence ?
Oui, le modèle suédois, bon, c'est un vaste sujet, mais très rapidement, c'est une certaine forme d'organisation de la société qui essaye de concilier la justice sociale et l'efficacité économique ou le dynamisme économique. Ça veut dire le modèle suédois, il répond aux mêmes questions qu'on se pose un peu partout, mais il a trouvé, mais la réponse qu'il a apportée est un peu originale et souvent elle a été jugée plus réussie qu'ailleurs. Donc en gros, le modèle suédois, on peut dire qu'il y a trois éléments qui sont fondamentaux. Déjà, il y a un dialogue social très fort, donc l'organisation du marché du travail par les dialogues entre les partenaires sociaux qui organisent eux-mêmes en grande partie comment le marché du travail doit fonctionner. Et deuxièmement, c'est effectivement un État-providence qui est financé par l'impôt, donc avec des impôts élevés, vous financez des services sociaux, vous financez des services de qualité et que vous offrez à tous les citoyens, ou même pas les citoyens, tous les résidents, justement, puisqu'on parle de l'immigration, tous les résidents. Et troisièmement, il y a un système d'assurance sociale qui, elle aussi, couvre l'ensemble de la population et sans couper la population, un peu comme on fait en France et ailleurs, ceux qui ont des mutuelles, des complémentaires, des supplémentaires, on essaie d'avoir un système beaucoup plus homogène qui offre, en gros, le même niveau de protection pour tout le monde, pour essayer de créer plus de solidarité entre les différentes catégories sociales.
Comment on entendait là dans le reportage ce sociologue en Suède qui disait que un sondage récent en Suède disait que 67% des Suédois étaient encore favorables à l'immigration. Est-ce que ça vient du dynamisme économique? Parce que c'est vrai que la Suède, quand on compare à la croissance atone de certains pays européens, dont la France d'ailleurs, taux de croissance en Suède de plus de 2,5% par an, évidemment ça peut faire rêver certains pays. Est-ce que ça vient de ça, d'un relatif dynamisme économique, malgré le taux de chômage qui est important quand même, 7,5%?
Oui, effectivement, au fond, c'est la situation sociale qui reflète la situation économique, la possibilité de trouver un emploi. Si on regarde...
Les Suédois ne se sentent pas en danger, en fait.
Ils se sentent... il faut nuancer quand même, parce que... les 63%, vous dites encore, mais en fait, c'est l'inverse. Ça veut dire...
67,
il y a 20 ans, au début des années 90, c'était 53%. Ça veut dire que le taux de la part de la population qui croit dans l'immigration comme quelque chose de positif a augmenté. Ce qui est un exploit vu le contexte européen d'aujourd'hui. Néanmoins, en face, on a quand même une extrême droite qui monte, dont nous allons peut-être en reparler. Mais globalement, évidemment, le modèle suédois, comme il a pu s'adapter à la mondialisation, au grand changement économique qui nous traverse ici en France, un peu partout en Europe, comme il a su s'adapter à ces évolutions mieux que d'autres, les problèmes sociaux par conséquent sont moins prononcés. Ils existent, ils montent, mais globalement, si vous comparez la situation sociale en France et en Suède, évidemment
les gens sont plus optimistes en Suède, hein, même si les sans-abri, le nombre de sans-abri en Suède a été multiplié par 3 par 10 en 3 ans, et l'opinion est très choquée. On en reparle juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, le modèle suédois face à son immigration. C'est un pays très généreux, on le disait en première partie d'émission, en termes de droit d'asile. Mais qu'en est-il plus largement de l'intégration des immigrés, qu'ils soient immigrés politiques ou économiques, à la lumière d'un reportage d'Alice Milo en Suède et de vos analyses, Voide Kalinowski, sociologue, vous êtes co-directeur de l'Institut Veblen. Alors tout de suite, suite de notre reportage en Suède. Direction maintenant la la ville de Malmö, que vous connaissez sûrement, Wojtek Kalinowski. On est au sud-ouest de la Suède et la ville est située en fait juste en face du Danemark. Malmö compte 40% d'habitants nés à l'étranger ou de parents nés à l'étranger et accueille 5000 réfugiés par an. Comme dans le reste du pays, ils sont pris en charge par le bureau de l'intégration qui accompagne un à un les nouveaux arrivants. Première étape, bien sûr, c'est l'apprentissage de la langue suédoise. Alice Milo et Sébastien Orion se sont rendus à Mosaikskolan, l'école mosaïque qui accueille des jeunes primo-arrivants.
Donc c'est une école pour les enfants qui arrivent dans la commune de Malmö. Beaucoup de Syriens, de Somaliens, mais aussi des enfants seuls, de Palestine aussi.
Hittills har vi skrivit in ungefär 350 elever sen 1 januari.
Au 1er janvier, 350 élèves étaient inscrits. Des élèves de 13 à 16 ans. Il y a aussi des demandeurs d'asile, et il y a ceux qui ont obtenu le permis de séjour, mais il y a aussi des migrants de l'Union européenne.
Bonjour.
Ici, ils viennent un an à peu près, et après on essaie de les réintégrer dans d'autres écoles. Maintenant, on va rencontrer Anna, notre professeure d'anglais.
Alors, on rentre dans sa salle de classe. Hey.
Om islam, ja? Vad kan du berätta om islam? Vad är de viktigaste? On est en train de parler sur les cinq religions dans le monde. Ça, c'est la classe qui vient d'arriver à Mosaïque. Ils sont ici depuis 2 mois. Il y a différentes nationalités, de Somalia, de Macédonie, de la Syrie. On essaye de parler que le suédois ici, dans la classe. Je leur dis toujours que maintenant vous êtes en Suède, vous allez peut-être vivre ici pendant des années, ou peut-être pour le restant de vos vies. Alors la langue, c'est la clé pour rentrer dans une autre école, pour avoir une éducation, pour avoir un bon travail. Alors on commence avec des images, comme vous voyez ici. Par exemple, moi j'enseigne en suédois, anglais, et après on a des professeurs qui viennent chercher les élèves pour les enseigner, par exemple en macédonien, en somalien, en arabe, et ça c'est leur aide.
Donc c'est-à-dire que l'école a été organisée de telle sorte, est-ce qu'il y a du personnel qui sache parler un petit peu près de toutes les langues des élèves ?
On essaye. C'est pas évident du tout, mais on essaye de travailler comme ça. On essaye de donner, surtout qu'ils apprennent le suédois le plus vite possible, bien sûr, mais en même temps, on n'oublie pas leur langue maternelle.
L'objectif, c'est que l'année prochaine, ils soient dans un système scolaire classique,
oui,
en fait ?
Oui, voilà, c'est ça. Il y a des élèves qui apprennent tellement vite qu'ils peuvent nous quitter après 3 mois. C'est fascinant. C'est impressionnant, vraiment.
Est-ce que vous pensez que quand on est dans une situation un peu d'urgence dans laquelle ces élèves peuvent se trouver, ça donne une force pour apprendre plus vite ?
Oui, je pense. Et peut-être aussi que ça leur aide de ne pas penser aux choses qu'ils ont quittées, de se concentrer sur le travail scolaire. Et maintenant, je vais vous présenter à quelques élèves pour que vous puissiez poser des questions.
My name is Swad. I'm studying in Mosaic School.
Je m'appelle Swad. J'étudie à l'école Mosaïque depuis 1 mois. Je viens de Somalie et j'habite à Malmö. Dans mon pays, il y a plein de groupes armés qui se battent. À cause de ça, j'ai perdu beaucoup d'années scolaires parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Quand j'allais à l'école, je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir. C'est arrivé à beaucoup de mes amis. Ils vont à l'école le matin et ils se font kidnapper. Après 3-4 jours, les ravisseurs appellent les parents et leur disent « J'ai votre enfant, donnez-moi 10 000, 15 000 dollars, sinon je le tue ». Aucun Somalien n'a 15 000 dollars. La mère de mon amie Amina, elle leur a répondu « Vous voulez la tuer ? Tuez-la, j'ai pas d'argent ». Une heure après, ils l'ont tué et ils ont déposé son corps devant sa maison. Mes parents, ils n'ont pas d'argent. Ils m'ont dit, tu dois rester à la maison.
Je viens d'Afghanistan et je suis venue ici avec toute ma famille, depuis 2 mois.
There wasn't safety for us, because we have enemies there.
On n'était pas en sécurité là-bas, c'est pour ça qu'on est venu ici. Que je puisse étudier et avoir un bel avenir. Tout le monde nous a dit que la Suède était un bon pays. En Afghanistan, l'école était de bonne qualité, mais on n'était pas en sécurité. Là-bas, il y a plein de terroristes, de talibans et Al-Qaïda. C'est dangereux pour les filles en Afghanistan. Ils ne veulent pas qu'on étudie, alors si on va à l'école, ils peuvent te tuer pour ça. Ils te disent, ne retourne pas à l'école, sinon je te tue, toi et ta famille.
Est-ce que tu crois que tu vas, en l'espace d'un an, avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir t'intégrer dans une école suédoise normale après être passé par cette école-là ?
J'espère, parce que je fais de mon mieux. J'étudie sérieusement. Si je deviens médecin, je pourrais retourner là-bas pour aider les Afghans, travailler pour mon pays.
Pour nous, comme professeurs, c'est bien de faire le focus. Notre focus doit être l'enseignement. C'est pour cela qu'on a les psychologues, les infirmières, les gens qui s'occupent du reste. Parce que c'est tellement vaste, leur passé. C'est une aide, je pense, de venir ici, avoir les routines scolaires, de rencontrer des jeunes de leur âge, de mettre le focus sur quelque chose de très positif. La plupart que j'ai vus, je leur vois des fois en ville aussi, par hasard, mais souvent ils viennent ici et ils ont l'air bien et contents.
Är det okej?
Okej.
IK1. Tack för denna veckan.
Hej då.
Hej då.
Vi ses då, lärare. Vi ses imorgon.
Varsågod.
Bonjour mademoiselle. Tu es une élève de cette salle de classe, c'est ça?
Oui.
Et là, c'était un cours de quoi?
On nous apprenait les noms de certains objets en suédois. Les oreilles, le lit, l'armoire et la casserole, tout ça. Je m'appelle Israëla. Je viens de la RDC, Kinshasa précisément. Je suis arrivée en Suède il y a 3 mois à peu près. Là-bas à Kinshasa, les frais scolaires étaient chers. Quand les parents ne payaient pas bien, à l'école on te chasse. Tu viendras que quand tu auras l'argent pour payer. Ne pas étudier et d'être à la maison qu'on me chasse, ça me faisait un peu mal aussi. J'avais honte.
Est-ce que tu penses que tu as plus de chances de réussir à réaliser ton rêve et ton avenir en étant ici qu'en étant en RDC?
Oui, parce que ici, j'ai vraiment envie de me donner à fond aux études.
Alors là, on est en plein centre-ville de Stockholm, direction le Parlement suédois, où on va rencontrer les démocrates de Suède, l'extrême droite, qui a remporté 13% aux élections législatives de septembre dernier.
Hey.
Hop, donc on rentre dans le Parlement. Hey, bonjour.
Bonjour. Marcus Wichel.
Bonjour, je suis Marcus Wichel et je suis le représentant des démocrates de Suède pour les questions de migration.
Vi vill ändra asylreglerna rätt drastiskt. För det första vill vi minska invandringen med ungefär 90%.
On veut diminuer l'immigration massive de 90%. Cette législation est trop permissive et notre but est d'influer la politique suédoise sur la question de l'immigration.
Det finns flera saker. För det första, Sverige ligger ju rent geografiskt.
La première étape, c'est de dire aux pays qui sont traversés par ces migrants, parce que la Suède se trouve assez loin finalement de ces conflits. La première chose serait de faire en sorte que les pays sur lesquels passent les migrants, ce soit eux qui reçoivent aussi leur part de demandeurs d'asile.
Och sen så finns det andra saker också när det kommer till anhöriginvandringen så vill vi.
Deuxième chose, ce serait d'augmenter les règles pour les personnes qui demandent l'asile, à savoir qu'ils aient la possibilité de se subvenir eux-mêmes le plus rapidement possible. Donc sur la question de la demande d'asile, aujourd'hui la Suède accorde un droit d'asile permanent, ce qui est quasiment unique dans le monde. Et c'est sur cette question-là qu'on veut changer les règles. Aujourd'hui, on commence à avoir un accord avec les conservateurs et notre idée, ça serait de fixer un droit d'asile à 3 ans. Aujourd'hui, on a vu nos partis alliés au Danemark et en Norvège qui ont réussi à appliquer ces politiques et on peut voir le succès qu'ils obtiennent aujourd'hui. Jusqu'aux années 70, on a réussi effectivement à intégrer cette immigration et depuis, on a de plus en plus de soucis pour intégrer autant de personnes avec autant d'origines différentes et voilà, aujourd'hui on a atteint les limites.
Voilà pour le reportage d'Alice Milo en Suède. Wojtek Kalinowski, vous êtes sociologue, co-directeur de l'Institut Veblen. Comment vous réagissez face à ces témoignages?
Ah, d'une part, ça montre pourquoi il y a besoin d'une politique d'asile, et que la Suède fait bien de la maintenir, alors que d'autres pays l'ont peut-être pas supprimé, mais ils ont quand même limité drastiquement ces dernières années le nombre de demandeurs. Mais ensuite, vous avez aussi vu un bel exemple de cette politique, disons, de reconnaissance des difficultés, des différences. Ça veut dire une politique qui veut vraiment aider les immigrés à s'intégrer, qui est prêt à investir des moyens publics pour y parvenir, et qui parvient souvent, de fait, qui parvient souvent, évidemment pas toujours, mais souvent, et
donc, finalement par la langue, hein, apprentissage
par la langue, voilà,
très important du suédois, avec
exactement.
Un va-et-vient avec la langue d'origine, qui peut être surprenant.
Ah oui, tout à fait. Ça veut dire, dans les écoles publiques suédoises, vous pouvez tout à fait avoir de l'enseignement dans d'autres langues selon, comment dire, la justification, la motivation suédoise, elle est d'ordre pédagogique. Ça veut dire, il faut, pour lutter contre les inégalités scolaires, il faut aider ces enfants-là, parce qu'on sait très bien que si vous arrivez, vous avez 7 ans ou 5 ans et vous arrivez en Suède, c'est dans 10 ans que vos capacités cognitives seront vraiment au niveau des Suédois ethniques. C'est-à-dire, pendant ces 10 ans, vous avez un handicap scolaire d'emblée. Et par exemple, l'enseignement des mathématiques dans la ville de Göteborg, dans certaines écoles de cette ville, a été dispensé en arabe pour des enfants d'origine immigrée. Et avec cette motivation-là. Donc c'est vrai, c'est dur à expliquer en France,
voilà,
où l'école républicaine nie les différences qui sont là de fait. Mais je pense globalement cette politique, elle touche ses limites aussi, mais elle a été globalement efficace. Et le résultat derrière, c'est que l'intégration sur le marché du travail, bon, elle n'est pas idéale, mais elle est quand même meilleure que dans d'autres qu'en France
mais
ou dans d'autres pays.
Même si le chômage pour
voilà.
Les
inégalités persistent.
Né à l'étranger, beaucoup plus élevé, deux fois et demi plus élevé que pour les Suédois.
Donc c'est vraiment une approche un peu pragmatique, moins idéologique et plus pragmatique. Comment on peut faire concrètement pour que ces élèves s'intègrent plus vite?
Alors néanmoins, vous avez aussi entendu l'interview de ce représentant de l'extrême droite en Suède. La grande majorité des Suédois approuve une politique d'ouverture aux migrants en Suède. Néanmoins, l'extrême droite est une force politique non négligeable aujourd'hui.
C'est une situation de plus en plus polarisée. Je pense que la société suédoise en tant que telle, elle est de plus en plus polarisée. Vous avez quand même globalement des gagnants et des perdants sur disons dans toutes les évolutions économiques qui ont eu lieu depuis les 20-25 ans maintenant.
Notamment face à la mondialisation, c'est ça que vous voulez dire, qu'il y a des Suédois qui sont perdants dans cette ouverture internationale.
Tout à fait, c'est le ces partis d'extrême droite, malheureusement, il faut reconnaître qu'ils captent pas mal de votes de la classe ouvrière, par exemple, qui se sent souvent menacé par les évolutions, qui c'est évidemment le taux de chômage est évidemment dépend évidemment du diplôme. Donc vous avez souvent des effets un peu paradoxaux où les immigrés s'intègrent plus facilement que certains Suédois des souches parce qu'ils ont tout misé sur le diplôme.
C'est ça, et surtout s'ils sont arrivés venant de milieux déjà lettrés dans leur famille, etc. Je pense par exemple aux Syriens.
Ou aux Iraniens, par exemple, qui sont l'immigration iranienne en Suède, c'est exclusivement de la classe moyenne éduquée. Et donc, on les retrouve dans les médias. Il y a plusieurs journalistes très connus qui sont d'origine iranienne à l'université, etc. Mais ça va, évidemment, pour d'autres pays, c'est pas le cas. Donc il faut toujours nuancer ces tableaux. Mais globalement, les efforts qui ont été un peu illustrés dans ces reportages payent.
Oui, mais néanmoins, quand est-ce que vous pourriez dater finalement ces réactions, cette montée de la xénophobie en Suède?
Au début, Il y a eu toujours une extrême droite suédoise depuis les années 30 en réalité, mais c'est une histoire plus ancienne. Plus récemment, on peut le dater au début des années 90. Ça veut dire au moment où la Suède a connu à traverser une très grave crise économique avec un chômage de masse. On disait même à l'époque que c'était la fin du modèle suédois. Après, le modèle a rebondi et la situation s'est stabilisée.
Notamment avec la réforme de l'État en profondeur.
À ce moment-là, vous avez eu une première tentative de former un parti politique, Ni démocratie, donc une nouvelle démocratie, qui est entrée au Parlement en 91, je pense, mais qui n'est restée que 3 ans et qui est disparue depuis. C'était la première parti populiste. Ensuite, la situation s'est stabilisée, mais cette polarisation de la société suédoise, elle se poursuit de façon continue. Donc, je suis pas surpris de ces résultats de 13%. Au Danemark, à côté, vous avez eu tout récemment des élections où ils ont eu 20%, voire plus, alors qu'ils ont beaucoup moins d'immigrés que la Suède. Donc, il faut toujours relativiser. Néanmoins, globalement, ce sont le même type de populisme, le même type d'extrême droite qui ont émergé un peu partout en Europe, et donc la Suède n'est pas une exception. Ils n'ont pas une recette miracle pour s'extraire de toutes ces tendances-là. Néanmoins, globalement, la situation est quand même moins grave qu'en Allemagne, qu'en France, qu'en Belgique, etc.
Avec donc des questions migratoires qui sont vraiment au centre du débat politique, surtout depuis la crise de décembre dernier qui a fait tomber le gouvernement. Maintenant, on a un pacte d'alliance au Parlement, en gros, qui...
Oui, mais il n'a pas, pour l'instant, ils n'ont pas écouter ces voix populistes. On verra, le temps montrera si ce parti arrivera à influencer réellement la politique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même quand la droite était au pouvoir, l'extrême droite n'a pas eu une influence qu'elle peut avoir au Danemark.
On va parler de la politique de logement en Suède, hein, parce que quand on arrive, quand on est migrant, bien sûr, il faut trouver un travail, mais il faut avant tout trouver un logement. Où en est la politique de logement? Quels sont les problèmes de ghettoisation aussi? On entendait le reportage d'Alice Milo à Malmö, qui est vraiment un ghetto de primo arrivants. On y revient dans quelques instants, ça sera juste après This is War, Adam Tensta.
For you, babe, took you across the world when I was living in my suitcase, and I admit that I was acting cold, but it was too late. Communication error, guess it didn't go two ways, and she never knew what I was feeling. I should've written back, but I didn't. Put the phone on silent just so I could say I missed it, and I still don't understand why a motherfucker did it. I only know that I lost you because of that. Now you're sitting there with pistols in your lap. You're trying to shoot me down every time you get the chance. You're just trying to make it hurt. You're just trying to get me back. I understand, but I can tell you this. Being without you is a war when I'm a pacifist. Shots ring around and someone hit me. It's not what I wanted. It's a shame that we done come to this. But this is war, baby. Close to be a stranger, but even when we try, we don't say much. What am I even to do when you still harboring the same grudge? Don't pull the pin on that grenade. I don't want you to keep hurting. Don't know what else I can say. Duck for cover, run for
a shell to AK-47 springs. Took so many bullets for you, made me weak like 53. This in the year in 7 days. I wrote too many songs, I did too many wrongs. The light behind these shades, I just couldn't take them off. It doesn't make it right that you even out the odds. Hey, you fuck somebody else, speaking of a shell shot. Don't understand, but I can tell you this. Being without you is a war when I'm a pacifist. Shots ring on ramp, if someone hit me, it's not what I wanted, it's a shame that this is all there is. This is war, baby.
Le groupe Adam Tensta, jeu de mots d'ailleurs, Wojtek Kalinowski.
Oui, je crois bien, parce que Tensta, c'est un nom très connu en France, en Suède. C'est une banlieue de Stockholm qui est réputée comme un quartier à difficultés, si vous voulez, où s'accumulent des problèmes sociaux, etc. Un ghetto, si vous voulez, même si moi j'aime pas ce mot. En France, on dirait 9-3 ou Saint-Denis, quelque chose comme ça.
Alors justement, en Suède, malgré les politiques sociales très généreuses en termes d'accueil, de demandeurs d'asile, de structures pour accueillir les demandeurs et les intégrer, notamment, on l'a vu dans le reportage d'Alice Milo, l'intégration qui passe par l'apprentissage de la langue, beaucoup de moyens sont déployés. Néanmoins, les migrants sont souvent regroupés dans des quartiers défavorisés. Je pense à Rosengård. C'est ça, vous le dites beaucoup mieux que moi, une banlieue de Malmö. 58 nationalités qui sont représentées, une population qui est composée à 90% d'étrangers. Force est de constater qu'il s'agit bien d'un ghetto.
En tout cas, des endroits très fortement ségrégés. Mais ça, la ségrégation existe en Suède, elle ne fait que s'accroître. Donc, il faut, et ce reportage l'a bien montré aussi. Donc, il faut pas exagérer avec les succès du modèle suédois. C'est toujours cette histoire du verre à moitié plein ou moitié vide, si vous voulez.
C'est ça. La ghettoisation avec la flambée du chômage dans ces quartiers-là, c'est la limite, clairement.
À Stockholm, c'est pareil. Stockholm, c'est pareil. À Göteborg, c'est pareil. C'est toujours la banlieue un peu éloignée où les Suédois ethniques, ceux qui peuvent se payer, quittent. Donc les Suédois quittent ces endroits-là et les immigrés s'installent. C'était une tendance de fond qui dure depuis 30 ans maintenant. Et c'est la situation un peu meilleure dans les petites villes, mais dans les grandes villes, c'était aussi souvent le résultat de la situation économique telle qu'elle est. Les communes, parce qu'en Suède, beaucoup des politiques sont décentralisées, donc c'est la responsabilité des communes de pourvoir logement.
De pourvoir un logement, ça c'est une obligation.
À tout résident d'ailleurs, pas uniquement aux réfugiés.
Mais aujourd'hui, on a le nombre de sans-abri qui a augmenté, qui a été multiplié par 10 en 3 ans, alors là qui concerne d'ailleurs beaucoup de populations roms.
Oui, enfin, vous voyez, les sans-abri, le DSDF, ça peut pas exister en Suède à long terme parce qu'on ne survit pas l'hiver avec un hiver nordique si on est SDF. Donc, c'est traditionnellement, ça n'existait pas. Ça émerge depuis quelques années très fortement dans les grandes villes. C'est souvent les populations roms. Mais l'État a ouvert beaucoup de centres d'hébergement, centres d'accueil dans ces quartiers-là aussi pour ces populations-là. Mais globalement, si vous êtes un immigré avec un droit de séjour, la commune a une obligation de vous aider à trouver un logement. Et peu importe si vous
êtes... Avec les difficultés qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. Alors justement, en conclusion, Wojtek Kalinowski, quel avenir pour le modèle suédois avec les chiffres qu'on a donnés au début de l'émission, c'est-à-dire plus de 100 000 demandeurs d'asile attendus là pour l'année 2015. Hein, on sait qu'on sera plus de 100 000 personnes accueillies.
Oui, et avec une moyenne.
Comment vous voyez l'avenir
années,
en quelques mots là?
En quelques mots, je pense que ces chiffres vont forcément décroître avec le temps, sous pression, disons, des forces comme l'extrême droite, mais pas uniquement. Néanmoins, la Suède restera un pays ouvert et
mais
l'immigration, l'intégration des immigrés sera toujours une réussite.
Vous pensez
partielle.
Que c'est pas soutenable pour un pays de même pas 10 millions d'habitants?
Tôt ou tard, 100 000 par an, en 10 ans, ça fait 1 million de plus. Donc la question de capacité de trouver des emplois, de trouver des logements, c'est sera atteinte.
Merci à vous, Wojtek Kalinowski. Vous êtes sociologue et co-directeur de l'Institut Veblen. Merci d'être passé par le studio de 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Eleonore Krenig, Boris Vichit, Pauline Leduc, Jonas Malé-Solars. Pour toutes vos réactions, bien sûr, vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr, sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter. Demain, 7 milliards de voisins, journée internationale des veuves. Vous le savez, dans certains pays, leur sort est dramatique une fois leur époux décédé, chassé de chez elles avec leurs enfants par leur belle famille. Comment les protéger, faire valoir leurs droits? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 60.